L'Odyssée, chant huitième. Quand Eos au doigt rosé, né au matin, apparut, la force sacrée d'Alkinoos se leva de son lit, et le dévastateur de citadelles, le divin et subtil Odysseus, se leva aussi. Et la force sacrée d'Alkinoos le conduisit à l'agora des Phaïaciens, auprès des nefs. Et dès leur arrivée, ils s'assirent l'un près de l'autre sur des pierres polies. Et Pallas Athénée parcourait la ville sous la figure d'un héros prudent d'Alkinoos. Et méditant le retour du magnanime Odysseus, elle abordait chaque homme et lui disait « Princes et chefs des Phaïaciens, allez à l'agora, afin d'entendre l'étranger qui est arrivé récemment dans la demeure du sage Alkinoos, après avoir erré sur la mer. Il est semblable aux immortels. » Ayant parlé ainsi, elle excitait l'esprit de chacun, et bientôt l'agora et les sièges furent pleins d'hommes rassemblés. Et ils admiraient le fils prudent de Laertès, car Athénée avait répandu une grâce divine sur sa tête et sur ses épaules, et l'avait rendu plus grand et plus majestueux, afin qu'il parût plus agréable, plus fier et plus vénérable aux Phaïaciens, et qu'il accomplît toutes les choses par lesquelles ils voudraient l'éprouver. Et après que tous se furent réunis, Alkinoos leur parla ainsi. « Écoutez-moi, princes et chefs des Phaïaciens, afin que je dise ce que mon cœur m'inspire dans ma poitrine. Je ne sais qui est cet étranger errant qui est venu dans ma demeure, soit du milieu des hommes qui sont du côté d'Eos, soit de ceux qui habitent du côté d'Hespéros. Il nous demande d'aider à son prompt retour. Nous le reconduirons, comme cela est déjà arrivé pour d'autres, car aucun homme entré dans ma demeure n'a jamais pleuré longtemps ici, désirant son retour. Allons, tirons à la mer divine une nef noire et neuve, et que 52 jeunes hommes soient choisis dans le peuple parmi les meilleurs de tous. Liez donc à leur banc les avirons de la nef, et préparons promptement dans ma demeure un repas que je vous offre. Les jeunes hommes accompliront mes ordres, et vous tous, rois porteurs de sceptre, venez dans ma belle demeure, afin que nous honorions notre hôte dans la maison royale. Que nul ne refuse, et appelez le divin Naoïde Démodocos, car un dieu lui a donné le chant admirable qui charme, quand son âme le pousse à chanter. » Ayant ainsi parlé, il marcha devant, et les porteurs de sceptre le suivaient, et un héros courut vers le divin Naoïde. Et 52 jeunes hommes, choisis dans le peuple, allèrent, comme Alkinoos l'avait ordonné, sur le rivage de la mer indomptée. Étant arrivés à la mer et à la nef, ils traînèrent la noire nef à la mer profonde, dressèrent le mât, préparèrent les voiles, lièrent les avirons avec des courroies, et faisant tout comme il convenait, étendirent les blanches voiles et poussèrent la nef au large. Puis ils se rendirent à la grande demeure du sage Alkinoos. Et le portique, et la salle, et la demeure étaient pleins d'hommes rassemblés, et les jeunes hommes et les vieillards étaient nombreux. Et Alkinoos tua pour eux 12 brebis, 8 porcs aux blanches dents, et 2 bœufs aux pieds flexibles. Et ils les écorchèrent, et ils préparèrent le repas agréable. Et le héros vint, conduisant le divin Naoïde. La muse l'aimait plus que tous, et elle lui avait donné de connaître le bien et le mal. Et l'ayant privé des yeux, elle lui avait accordé le chant admirable. Le héros plaça pour lui, au milieu des convives, un trône aux clous d'argent, appuyé contre une longue colonne, et au-dessus de sa tête, il suspendit la guitare sonore, et il lui montra comment il pourrait la prendre. Puis il dressa devant lui une belle table, et il y mit une corbeille et une coupe de vin, afin qu'il bût autant de fois que son âme le voudrait. Et tous étendirent les mains vers les mets placés devant eux. Après qu'ils eurent assouvi leur faim et leur soif, la muse excita Laoïde à célébrer la gloire des hommes par un chant dont la renommée était parvenue jusqu'au large Ouranos. Et c'était la querelle d'Odysseus et du Péléide Achilleus, quand ils se querellèrent autrefois en paroles violentes dans un repas offert aux dieux. Et le roi des hommes, Agamemnon, se réjouissait dans son âme, parce que les premiers d'entre les Achéens se querellaient. En effet, La prédiction s'accomplissait que lui avait faite Phoibos Apollon, quand dans la divine Pytho, il avait passé le seuil de pierre pour interroger l'oracle. Et alors se préparaient les mots des Troyens et des Danaïens, par la volonté du grand Zeus. Et l'illustre Aoïde chantait ces choses. Mais Odysseus, ayant saisi de ses mains robustes son grand manteau pourpré, l'attira sur sa tête et en couvrit sa belle face, et il avait honte de verser des larmes devant les Phaïaciens. Mais quand le divin Aoïde cessait de chanter, lui-même cessait de pleurer, et il écartait son manteau, et prenant une coupe ronde, il faisait des libations aux dieux. Puis quand les princes des Phaïaciens excitaient l'Aoïde à chanter de nouveau, car ils étaient charmés de ses paroles, de nouveau Odysseus pleurait, la tête cachée. Il se cachait de tous en versant des larmes. Mais Alcinoos le vit, seul, étant assis auprès de lui, et il l'entendit gémir. Et aussitôt, il dit aux Phaïaciens habiles à manier les avirons. « Écoutez-moi, princes et chefs des Phaïaciens, déjà nous avons satisfait notre âme par ce repas et par les sons de la guitare qui sont la joie des repas. Maintenant, sortons et livrons-nous à tous les jeux, afin que notre hôte raconte à ses amis, quand il sera retourné dans sa patrie, combien nous l'emportons sur tous les autres hommes, au combat des poings, à la lutte, au saut et à la course. » Ayant ainsi parlé, il marcha le premier et tous le suivirent. Et le héros suspendit la guitare sonore à la colonne, et prenant Démodocos par la main, il le conduisit hors des demeures, par le même chemin qu'avaient pris les princes des Phaïaciens, afin d'admirer les jeux. Et ils allèrent à l'agora, et une foule innombrable suivait. Puis beaucoup de robustes jeunes hommes se levèrent, Acronéos, Ochialos, Elatréus, Notéus, Primnéus, Anchialos, Eretméus, Ponteus, Proteus, Thoon, Anabessinéos, Amphialos, fils de Polynéos Tectonide, et Euryalos, semblable au tueur d'hommes Arès, et Nobolides, qui l'emportait par la force et la beauté sur tous les Phaïaciens, après l'irréprochable Laodamas. Et les trois fils de l'irréprochable Alcinoos se levèrent aussi, Laodamas, Alios et le divin Clitonéos. Et ils combattirent d'abord à la course, et ils s'élancèrent des barrières, et tous ensemble, ils volaient rapidement, soulevant la poussière de la plaine. Mais celui qui les devançait de plus loin était l'irréprochable Clitonéos. Autant les mules qui achèvent un sillon ont franchi d'espace, autant il les précédait, les laissant en arrière, quand il revint devant le peuple. Et d'autres engagèrent le combat de la lutte, et dans ce combat, Euryalos l'emporta sur les plus vigoureux, et Amphialos fut vainqueur en sautant le mieux, et Elatréus fut le plus fort au disque, et Laodamas, l'illustre fils d'Alcinoos, au combat des poings. Mais après qu'ils eurent charmé leur âme par ces combats, Laodamas, fils d'Alcinoos, parla ainsi. « Allons, amis, demandons à notre hôte s'il sait aussi combattre. Certes, il ne semble point sans courage. Il a des cuisses et des bras et un cou très vigoureux. Et il est encore jeune, bien qu'il ait été affaibli par beaucoup de malheurs. Car je pense qu'il n'est rien de pire que la mer pour épuiser un homme, quelque vigoureux qu'il soit. » Et Euryalos lui répondit, « Laodamas, tu as bien parlé. Maintenant, va, provoque-le et rapporte-lui nos paroles. » Et l'illustre fils d'Alcinoos, ayant écouté ceci, s'arrêta au milieu de l'arène et dit à Odysseus, « Allons, hôte, mon père, viens tenter nos jeux, si tu y es exercé comme il convient que tu le sois. Il n'y a point de plus grande gloire pour les hommes que celle d'être brave par les pieds et par les bras. Viens donc, et chasse la tristesse de ton âme. Ton retour n'en subira pas un long retard, car déjà ta nef est traînée à la mer, et tes compagnons sont prêts à partir. » Et le subtil Odysseus lui répondit, « Laodamas, pourquoi me provoques-tu à combattre? Les douleurs remplissent mon âme plus que le désir des jeux. J'ai déjà subi beaucoup de maux et supporté beaucoup de travaux. Et maintenant, assis dans votre agora, J'implore mon retour, priant le roi et tout le peuple. Et Euryalos lui répondant, l'outragea ouvertement. Tu parais, mon hôte, ignorais tous les jeux où s'exercent les hommes, et tu ressembles à un chef de matelots marchands, qui sur une nef de charge n'a souci que de gains et de provisions, plutôt qu'à un athlète. Et le subtil Odysseus, avec un sombre regard, lui dit, mon hôte, tu n'as point parlé convenablement, et tu ressembles à un homme insolent. Les dieux ne dispensent point également leurs dons à tous les hommes, la beauté, la prudence ou l'éloquence. Souvent un homme n'a point de beauté, mais un dieu l'orne par la parole, et tous sont charmés devant lui, car il parle avec assurance et une douce modestie, et il domine l'agora, et quand il marche par la ville, on le regarde comme un dieu. Un autre est semblable au dieu par sa beauté, mais il ne lui a point été accordé de bien parler. Ainsi tu es beau, et un dieu ne t'aurait point formé autrement, mais tu manques d'intelligence, et comme tu as mal parlé, tu as irrité mon cœur dans ma chère poitrine. Je n'ignore point ces combats, ainsi que tu le dis. J'étais entre les premiers, quand je me confiais dans ma jeunesse et dans la vigueur de mes bras. Maintenant, je suis accablé de misères et de douleurs, ayant subi de nombreux combats parmi les hommes, ou en traversant les flots dangereux. Mais bien que j'aie beaucoup souffert, je tenterai ces jeux, car ta parole m'a mordu, et tu m'as irrité par ce discours. » Il parla ainsi, et sans rejeter son manteau, s'élançant impétueusement, il saisit une pierre plus grande, plus épaisse, plus lourde que celle dont les Phaïaciens avaient coutume de se servir dans les jeux. Et l'ayant faite tourbillonner, il la jeta d'une main vigoureuse, et la pierre rugit, et tous les Phaïaciens, habiles à manier les avirons, courbèrent la tête sous l'impétuosité de la pierre, qui vola bien au-delà des marques de tous les autres. Et Athénée accourut promptement, et posant une marque, elle dit, ayant pris la figure d'un homme, « Même un aveugle, mon hôte, pourrait reconnaître ta marque en la touchant, car elle n'est point mêlée à la foule des autres, mais elle est bien au-delà. Aie donc confiance, car aucun des Phaïaciens n'atteindra là, loin de te dépasser. » Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus fut joyeux, et il se réjouissait d'avoir dans l'agora un compagnon bienveillant. Et il dit avec plus de douceur aux Phaïaciens, « Maintenant, jeunes hommes, atteignez cette pierre. Je pense que je vais bientôt en jeter une autre, aussi loin et même au-delà. Mon âme et mon cœur m'excitent à tenter tous les autres combats. Que chacun de vous se fasse ce péril, car vous m'avez grandement irrité. Au ceste, à la lutte, à la course, je ne refuse aucun des Phaïaciens, sauf le seul Laodamas. Il est mon hôte. Qui pourrait combattre un ami? L'insensé seul, et l'homme de nulle valeur, le disputent à leur hôte dans les jeux, au milieu d'un peuple étranger, et ils s'avilissent ainsi. Mais je n'en récuse ni n'en repousse aucun autre. Je n'ignore aucun des combats qui se livrent parmi les hommes. Je sais surtout tendre un arc récemment poli. Et le premier, j'atteindrai un guerrier lançant des traits dans la foule des hommes ennemis, même quand de nombreux compagnons l'entoureraient et tendraient l'arc contre moi. Le seul Philoctétès l'emportait sur moi par son arc, chez le peuple des Troyens, toutes les fois que les Achéens lançaient des flèches. Mais je pense être maintenant le plus habile de tous les mortels qui se nourrissent de pain sur la terre. Certes, je ne voudrais point lutter contre les anciens héros, ni contre Héraclès, ni contre Rhitos le Calien, car ils luttaient comme archers, même avec les dieux. Le grand Eurytos mourut tout jeune, et il ne vieillit point dans ses demeures. En effet, Apollon irrité le tua, parce qu'il l'avait provoqué au combat de l'arc. Je lance la pique aussi bien qu'un autre lance une flèche. Seulement, je crains qu'un des Phaïaciens me surpasse à la course, ayant été affaibli par beaucoup de fatigue au milieu des flots, car je ne possédais pas une grande quantité de vivres dans ma nef, et mes chers genoux sont rompus. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets, et le seul Alcinoos lui répondit, « Mon hôte, Tes paroles me plaisent. Ta force veut prouver la vertu qui te suit partout, étant irritée, car cet homme t'a défié. Mais aucun n'oserait douter de ton courage, si du moins il n'a point perdu le jugement. Maintenant, comprends bien ce que je vais dire, afin que tu parles favorablement de nos héros quand tu prendras tes repas dans tes demeures, auprès de ta femme et de tes enfants, et que tu te souviennes de notre vertu et des travaux dans lesquels Zeus nous a donné d'exceller dès le temps de nos ancêtres. Nous ne sommes point les plus forts Ocestes, ni des lutteurs irréprochables, mais nous courons rapidement et nous excellons sur les nefs. Les repas nous sont chers, et la guitare, et les danses, et les vêtements renouvelés, les bains chauds, et les lits. Allons, vous qui êtes les meilleurs danseurs phaïakiens, dansez, afin que notre hôte, de retour dans sa demeure, dise à ses amis combien nous l'emportons sur tous les autres hommes, dans la science de la mer, par la légèreté des pieds, à la danse et par le chant. Que quelqu'un apporte aussitôt à Démodocos sa guitare sonore, qui est restée dans nos demeures. Alcinoos, semblable à un dieu, parla ainsi, et un héros se leva pour rapporter la guitare harmonieuse de la maison royale. Et les 9 chefs des jeux, élus par le sort, se levèrent, car c'étaient les régulateurs de chaque chose dans les jeux. Et ils aplanirent la place du cœur, et ils disposèrent un large espace. Et le héros revint, apportant la guitare sonore à Démodocos. Et celui-ci se mit au milieu, et autour de lui se tenaient les jeunes adolescents, habiles à danser. Et ils frappaient de leurs pieds le cœur divin. Et Odysseus admirait la rapidité de leurs pieds, et il s'en étonnait dans son âme. Mais Laoïde commença de chanter admirablement l'amour d'Arès et d'Aphrodite à la belle couronne, et comment ils s'unirent dans la demeure d'Héphaïstos. Arès fit de nombreux présents, et il déshonora le lit du roi Héphaïstos. Aussitôt Hélios, qui les avait vus s'unir, vint l'annoncer à Héphaïstos, qui entendit là une cruelle parole. Puis, méditant profondément sa vengeance, il se hâta d'aller à sa forge, et dressant une grande enclume, il forgea des liens qui ne pouvaient être ni rompus ni dénoués. Ayant achevé cette trame pleine de ruses, il se rendit dans la chambre nuptiale, où se trouvait son cher lit. Et il suspendit de tous côtés, en cercle, ces liens qui tombaient des poutres autour du lit, comme l'étoile de l'araignée, et que nul ne pouvait voir, pas même les dieux heureux. Ce fut ainsi qu'il ourdit sa ruse. Et après avoir enveloppé le lit, il feignit d'aller à Lemnos, ville bien bâtie, celle de toutes qu'il aimait le mieux sur la terre. Arès au frein d'or le surveillait, et quand il vit partir l'illustre ouvrier Héphaïstos, il se hâta, dans son désir d'Aphrodite à la belle couronne, de se rendre à la demeure de l'illustre Héphaïstos. Et Aphrodite, revenant de voir son tout-puissant père Zeus, était assise. Et Arès entra dans la demeure, et il lui prit la main, et il lui dit « Allons, cher, dormir dans notre lit. Héphaïstos n'est plus ici. » Il est allé à Lemnos, chez les Cynthiens au langage barbare. Il parla ainsi, et il sembla doux à la déesse de lui céder, et ils montèrent sur le lit pour y dormir. Et aussitôt, les liens habilement disposés par le subtil Héphaïstos les enveloppèrent, et ils ne pouvaient ni mouvoir leurs membres, ni se lever, et ils reconnurent alors qu'ils ne pouvaient fuir. Et l'illustre boiteux des deux pieds approcha, car il était revenu avant d'arriver à la terre de Lemnos, Hélios ayant veillé pour lui et l'ayant averti. Et il rentra dans sa demeure, affligé en sa chère poitrine. Il s'arrêta sous le vestibule, et une violente colère le saisit, et il cria horriblement, et il fit que tous les dieux l'entendirent. Père Zeus, et vous, dieux heureux qui vivez toujours, venez voir des choses honteuses et intolérables. Moi qui suis boiteux, la fille de Zeus, Aphrodite, me déshonore, et elle aime le pernicieux Arès parce qu'il est beau et qu'il ne boite pas. Si je suis laid, certes, je n'en suis pas cause, mais la faute en est à mon père et à ma mère, qui n'auraient pas dû m'engendrer. Voyez comme ils sont couchés, unis par l'amour. pincèrent en les voyant sur ce lit. Je suis plein de douleur, mais je ne pense pas qu'ils tentent d'y dormir encore, bien qu'ils s'aiment beaucoup. Ils ne pourront s'unir, et mon piège et mes liens les retiendront jusqu'à ce que son père m'ait rendu toute la dot que je lui ai livrée, à cause de sa fille aux yeux de chien, parce qu'elle était belle. » Il parla ainsi, et tous les dieux se rassemblèrent dans la demeure des reins. Poséidon, qui entoure la terre, vint, et le très utile Herméias vint aussi, puis le royal archer Apollon. Les déesses, par pudeur, restèrent seules dans leur demeure. Et les dieux qui dispensent les biens étaient debout dans le vestibule. Et un rire immense s'éleva parmi les dieux heureux quand ils virent l'ouvrage du prudent Héphaïstos. Et en le regardant, ils disaient entre eux « Les actions mauvaises ne valent pas la vertu. Le plus lent a atteint le plus rapide. Voici qu'Héphaïstos, bien que boiteux, a saisi par sa science Arès, qui est le plus rapide de tous les dieux qui habitent l'Olympos. Et c'est pourquoi il se fera payer une amende. » Ils se parlaient ainsi entre eux. Et le roi Apollon, fils de Zeus, dit à Herméias. Messager Herméias, fils de Zeus, qui dispense les biens, certes, tu voudrais sans doute être enveloppé de ces liens indestructibles, afin de coucher dans ce lit auprès d'Aphrodite d'or. Et le messager Herméias lui répondit aussitôt. Plutôt Dieu, ô royal archer Apollon, que cela arriva, et que je fusse enveloppé de liens trois fois plus inextricables, et que tous les dieux et les déesses le vissent, pourvu que je fusse couché auprès d'Aphrodite d'or. » Il parla ainsi, et le rire des dieux immortels éclata. Mais Poséidon ne riait pas, et il suppliait l'illustre Héphaïstos de délivrer Arès, et il lui disait ces paroles ailées. « Délivre-le, et je te promets qu'il te satisfera, ainsi que tu le désires, et comme il convient entre dieux immortels. » Et l'illustre ouvrier Héphaïstos lui répondit. « Poséidon qui entoure la terre, ne me demande point cela. Les cautions des mauvais sont mauvaises. Comment pourrais-je te contraindre, parmi les dieux immortels, si Arès échappait à sa dette et à mes liens ?» Et Poséidon qui ébranle la terre lui répondit. « Héphaïstos, si Arès, reniant sa dette, prend la fuite, je te la paierai moi-même. » Et l'illustre boite des deux pieds lui répondit. « Il ne convient point que je refuse ta parole, et cela ne sera point. » Ayant ainsi parlé, la force d'Héphaïstos rompit les liens, et tous deux, libres des liens inextricables, s'envolèrent aussitôt. Arès dans la trachée, et Aphrodite qui aime les sourires dans Kypros, à Paphos, où sont ses bois sacrés et ses autels parfumés. Là, les Charites la baignèrent et la parfumèrent d'une huile ambroisienne, comme il convient aux dieux immortels, et elles la revêtirent de vêtements précieux, admirables à voir. Ainsi chantait l'illustre Aoïde, et dans son esprit, Odysseus se réjouissait de l'entendre, ainsi que tous les Phaïaciens, habiles à manier les longs avirons des nefs. Et Alcinoos ordonna à Alios et à Laodamas de danser seuls, car nul ne pouvait lutter avec eux. Et ceux-ci prirent dans leurs mains une belle boule pourprée que le sage Polybos avait faite pour eux. Et l'un, courbé en arrière, la jetait vers les sombres nuées, et l'autre la recevait avant qu'elle eût touché la terre devant lui. Après avoir ainsi admirablement joué de la boule, ils dansèrent alternativement sur la terre féconde. Et tous les jeunes hommes, debout dans l'agora, applaudirent, et un grand bruit s'éleva. Alors, le divin Odysseus dit à Alcinoos, « Roi Alcinoos, le plus illustre de tout le peuple, certes, tu m'as annoncé les meilleurs danseurs, et cela est manifeste. L'admiration me saisit en les regardant. » Il parla ainsi, et la force sacrée d'Alcinoos fut remplie de joie. Et il dit aussitôt aux Phaïaciens qui aiment les avirons, « Écoutez, princes et chefs des Phaïaciens, notre hôte me semble plein de sagesse. Allons, il convient de lui offrir les dons hospitaliers. 12 rois illustres, 12 princes, commandent ce peuple. Et moi, je suis le 13e. Apportez-lui chacun un manteau bien lavé, une tunique et un talent d'or précieux. Et aussitôt, Nous apporterons tous ensemble ces présents, afin que notre hôte, les possédant, siège au repas, l'âme pleine de joie. Et Euryalos l'apaisera par ses paroles, puisqu'il n'a point parlé convenablement. Il parla ainsi, et tous, ayant applaudi, ordonnèrent qu'on apportât les présents, et chacun envoya un héros. Et Euryalos, répondant à Alcinoos, parla ainsi.
« Roi Alcinoos,
le plus illustre de tout le peuple, j'apaiserai notre hôte, comme tu me l'ordonnes, et je lui donnerai cette épée d'airain, dont la poignée est d'argent, et dont la gaucine est d'ivoire récemment travaillée. Ce don sera digne de notre hôte. » En parlant ainsi, il mit l'épée au clou d'argent entre les mains d'Odysseus, et il lui dit en paroles ailées, « Salut, hôte, mon père. Si j'ai dit une parole mauvaise, que les tempêtes l'emportent. Que les dieux t'accordent de retourner dans ta patrie et de revoir ta femme, car tu as longtemps souffert loin de tes amis. » Et le subtil Odysseus lui répondit, « Ô toi, ami, je te salue. Que les dieux t'accordent tous les biens. Puisses-tu n'avoir jamais le regret de cette épée que tu me donnes en m'apaisant par tes paroles. » Il parla ainsi, et il suspendit l'épée au clou d'argent autour de ses épaules. Puis Hélios tomba, et les splendides présents furent apportés, et les héros illustres les déposèrent dans la demeure d'Alcinoos. Et les irréprochables fils d'Alcinoos, les ayant reçus, les placèrent devant leur mère vénérable. Et la force sacrée d'Alcinoos commanda aux Phaïaciens de venir dans sa demeure. Et ils s'assirent sur des trônes élevés. Et la force d'Alcinoos dit à Arétée, « Femme, apporte un beau coffre, le plus beau que tu aies, et tu y renfermeras un manteau bien lavé et une tunique, qu'on mette un vase sur le feu et que l'eau chauffe, afin que notre hôte, s'étant baigné, contemple les présents que lui ont apportés les irréprochables Phaïaciens, et qu'il se réjouisse du repas en écoutant le chant de la Oïde. Et moi, je lui donnerai cette belle coupe d'or, afin qu'il se souvienne de moi tous les jours de sa vie, quand il fera dans sa demeure des libations à Zeus et aux autres dieux. » Il parla ainsi, et Arété ordonna aux servantes de mettre promptement un grand vase sur le feu. Et elles mirent sur le feu ardent le grand vase pour le bain, et elles y versèrent de l'eau, et elles allumèrent le bois par-dessous. Et le feu enveloppa le vase à trois pieds, et l'eau chauffa. Et pendant ce temps, Arété descendit de sa chambre nuptiale pour son hôte un beau coffre, et elle y plaça les présents splendides, les vêtements et l'or que les Phaïaciens lui avaient donné. Elle-même y déposa un manteau et une belle tunique, et elle dit à Odysseus ces paroles ailées, « Vois toi-même ce couvercle et ferme-le d'un nœud, afin que personne en route ne puisse te dérober quelque chose, car tu dormiras peut-être d'un doux sommeil dans la nef noire. » Ayant entendu cela, le patient et divin Odysseus ferma aussitôt le couvercle à l'aide d'un nœud inextricable que la vénérable Circé lui avait enseigné autrefois. Puis l'intendante l'invita à se baigner, et il descendit dans la baignoire, et il sentit plein de joie l'eau chaude, car il y avait longtemps qu'il n'avait usé de ses soins, depuis qu'il avait quitté la demeure de Calypso aux beaux cheveux, où il lui était toujours donné comme à un dieu. Et les servantes, l'ayant baigné, le parfumèrent d'huile et le revêtirent d'une tunique et d'un beau manteau. Et sortant du bain, il revint au milieu des hommes buveurs de vin. Et Nausicaa, qui avait reçu des dieux la beauté, s'arrêta sur le seuil de la demeure bien construite. Et regardant Odysseus qu'elle admirait, elle lui dit ces paroles ailées. « Salut, mon hôte, plaise aux dieux, quand tu seras dans la terre de la patrie, que tu te souviennes de moi à qui tu dois la vie. » Et le subtil Odysseus lui répondit, « Nausicaa, fille du magnanime Alcinoos, si maintenant Zeus, le retentissant époux de Héré, m'accorde de voir le jour du retour et de rentrer dans ma demeure, là, certes, comme à une déesse, je t'adresserai des vœux tous les jours de ma vie, car tu m'as sauvée, ô Vierge. » Il parla ainsi, et il s'assit sur un trône auprès du roi Alcinoos, et les hommes faisaient les parts et mélangeaient le vin. et un hérovin, conduisant l'aouïd harmonieux, Démodocos, vénérable au peuple. Et il le plaça au milieu des convives, appuyé contre une haute colonne. Alors Odysseus, coupant la plus forte part du dos d'un porc aux blanches dents, et qui était enveloppé de graisse, dit au héros, « Prends, héros, et offre, afin qu'il la mange, cette chair à Démodocos. Moi aussi je l'aime, quoique je sois affligé. Les Aoïdes sont dignes d'honneur et de respect parmi tous les hommes terrestres, car la muse leur a enseigné le chant, et elle aime la race des Aoïdes. » Il parla ainsi, et le héros déposa le mets aux mains du héros Démodocos, et celui-ci le reçut, plein de joie, et tous étendirent les mains vers la nourriture placée devant eux. Et après qu'ils se furent rassasiés de boire et de manger, le subtil Odysseus dit à Démodocos, « Démodocos, je t'honore plus que tous les hommes mortels, soit que la muse, fille de Zeus, t'ait instruit, soit Apollon. Tu as admirablement chanté la destinée des Achéens, et tous les maux qu'ils ont endurés, et toutes les fatigues qu'ils ont subies, comme si toi-même avais été présent, ou comme si tu avais tout appris d'un Argien. Mais chante maintenant le cheval de bois, qu'Épéios fit avec l'aide d'Athénée, et que le divin Odysseus conduisit par ses ruses dans la citadelle, tout rempli d'hommes qui renversèrent Ilios. Si tu me racontes exactement ces choses, je déclarerai à tous les hommes qu'un dieu t'a doué avec bienveillance du chant divin. » Il parla ainsi, et l'aoïde, inspiré par un dieu, commença de chanter. Et il chanta d'abord comment les Argiens, étant montés sur les nefs au banc des rameurs, s'éloignèrent après avoir mis le feu aux tentes. Mais les autres Achéens étaient assis déjà auprès de l'illustre Odysseus, enfermés dans le cheval, au milieu de l'agora des Troyens. Et ceux-ci eux-mêmes avaient traîné le cheval dans leur citadelle. Et là ils se dressaient, tandis qu'ils proféraient mille paroles, assis autour de lui. Et trois desseins leur plaisaient, ou de fendre ce bois creux avec les reins tranchants, ou de le précipiter d'une hauteur sur les rochers, ou de le garder comme une vaste offrande aux dieux. Ce dernier dessein devait être accompli, car leur destinée était de périr, après que la ville eut reçu dans ses murs le grand cheval de bois où étaient assis les princes des Achéens, devant porter le meurtre et la guerre aux Troyens. Et Démodocos chanta comment les fils des Achéens, s'étant précipités du cheval, leurs creuses embuscades saccagèrent la ville. Puis il chanta la dévastation de la ville escarpée, et Odysseus et le divin Ménélaos, semblable à Arès, assiégeant la demeure de Déiphobos, et le très rude combat qui se livra en ce lieu, et comment ils vainquirent avec l'aide de la magnanime Athénée. L'illustre Aoïde chantait ces choses, et Odysseus défaillait, et sous ses paupières il arrosait ses joues de larmes. De même qu'une femme entoure de ses bras et pleure son mari bien-aimé, tombé devant sa ville et son peuple, laissant une mauvaise destinée à sa ville et à ses enfants. Et de même que le voyant mort et encore palpitant, elle se jette sur lui en hurlant, tandis que les ennemis, lui frappant le dos et les épaules du bois de leurs lances, l'emmènent en servitude, afin de subir le travail et la douleur, et que ses jours sont flétris par un très misérable désespoir. De même, Odysseus versait des larmes amères sous ses paupières, en les cachant à tous les autres convives, et seul Alcinoos, étant assis auprès de lui, s'en aperçut, et il l'entendit gémir profondément. Et aussitôt, il dit aux Phaïaciens, habiles dans la science de la mer, « Écoutez, princes et chefs des Phaïaciens, et que Démodocos fasse taire sa guitare sonore. Ce qu'il chante ne plaît pas également à tous. Dès le moment où nous avons achevé le repas et où le divin Aoïde a commencé de chanter, notre hôte n'a point cessé d'être en proie à un deuil cruel et la douleur a envahi son cœur. Que Démodocos cesse donc, afin que nous et notre hôte, nous soyons tous également satisfaits. Ceci est de beaucoup le plus convenable. Nous avons préparé le retour de notre hôte vénérable et des présents amis que nous lui avons offerts parce que nous l'aimons. Un hôte, un suppliant, est un frère pour tout homme qui peut encore s'attendrir dans l'âme. C'est pourquoi, étranger, ne me cache rien par ruse de tout ce que je vais te demander, car il est juste que tu parles sincèrement. Dis-moi comment se nommait ta mère, ton père, ceux qui habitaient ta ville et tes voisins. Personne, en effet, parmi les hommes, lâches ou illustres, n'a manqué de nom depuis qu'il est né. Les parents qui nous ont engendrés nous en ont donné à tous. Dis-moi aussi ta terre natale, ton peuple et ta ville, afin que nos nefs qui pensent t'y conduisent, car elles n'ont point de pilote ni de gouvernail comme les autres nefs, mais elles pensent comme les hommes, et elles connaissent les villes et les champs fertiles de tous les hommes, et elles traversent rapidement la mer, couvertes de brouillards et de nuées, sans jamais craindre d'être maltraitées ou de périr. Cependant, j'ai entendu autrefois mon père Nausithoos dire que Poséidon s'irriterait contre nous, parce que nous reconduisons impunément tous les étrangers. Et il disait qu'une solide nef des Phaïakiens périrait au retour d'un voyage sur la mer sombre, et qu'une grande montagne serait suspendue devant notre ville. Ainsi parlait le vieillard. Peut-être ces choses s'accompliront-elles, peut-être n'arriveront-elles point. Ce sera comme il plaira aux dieux. Mais parle, et dis-nous dans quel lieu tu as erré, les pays que tu as vus, et les villes bien peuplées, et les hommes, cruels et sauvages, ou justes et hospitaliers, et dont l'esprit plaît aux dieux. Dis pourquoi tu pleures en écoutant la destinée des Argiens, des Danaïns et d'Ilios. Les dieux eux-mêmes ont fait ces choses, et voulu la mort de tant de guerriers, afin qu'on les chantât dans les jours futurs. Un de tes parents est-il mort devant Ilios? Était-ce ton gendre illustre ou ton beau-père, ceux qui nous sont le plus chers après notre propre sang? Est-ce encore un irréprochable compagnon? Un sage compagnon, en effet, n'est pas moins qu'un frère.